Bonsoir à tous. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. » Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. » On va faire une autre lecture dans Actes, au chapitre 16 et au verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu ses ordres, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Un dernier texte, dans Actes toujours au chapitre 5 et au verset 40. Actes 5, 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent et de devant le Sanhédrin en pleurant, se plaignant et regrettant tout ce qui était arrivé. C'est ça ? Non. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. J'ai pris trois textes qu'on va mettre en comparaison les uns et les autres pour parler de quelque chose ce soir, de la joie. J'aimerais parler de joie. Êtes-vous joyeux ? Tiens. Êtes-vous joyeux ce soir ? Je vous donne un dicton. Un ou deux dictons qui sont dits un peu autour de nous. Joie de cœur fait beau teint de visage. Alors si vous avez le visage joyeux, c'est que vous avez un visage tout radieux. Tout désirer égale chagrin. Tout accepter égale joie. Ça se dit. C'est vrai que quand on n'est jamais satisfait, on ne peut pas trouver la joie. Mais quand on se satisfait de l'état, on est satisfait dans l'état où on se trouve, qu'on apprend à être content dans l'état où on se trouve, c'est vrai que la joie vient plus facilement. La vie sans gaieté est une lampe sans huile. Je trouvais ça sympa. La vie sans gaieté est une lampe sans huile. Et ça, je l'ai pris parce que ça m'a fait penser à la parole de Dieu, bien sûr. Sommes-nous joyeux ? C'est vrai que quand quelqu'un a la vraie joie dans le cœur, une joie profonde, ça se voit sur son visage. C'est pas vrai ? ça se voit. Quand quelqu'un vient d'avoir une bonne nouvelle, tiens, qu'il a une joie immense parce qu'il attendait cette nouvelle depuis longtemps, ça se voit. Quand quelqu'un est amoureux d'une autre personne et que cette autre personne lui dit « moi aussi je t'aime », il est joyeux, il a de la joie sur son visage, ça se voit, et on voit avant, on voit après. Dans la parole de Dieu, il est dit « soyez toujours joyeux ». Est-ce que c'est possible? C'est dur en tout cas à imaginer, hein. C'est pas toujours évident, mais si la Bible en parle, c'est que c'est possible de trouver une joie, un sujet de joie qui ne tarit jamais, qui ne s'efface pas, qui demeure toute la vie, afin que même s'il y a des difficultés, dans cette chose-là, on puisse y puiser une joie dont on a tous besoin. Parce que sinon, on est comme une lampe sans huile. La parole de Dieu nous parle d'une joie en particulier. La joie est pour ceux dont le cœur est droit. Ce que va dire le livre des Psaumes au chapitre 97. Un autre texte dit « Un fils sage fait la joie de son père ». Et un homme insensé donne du chagrin à sa mère. Est-ce qu'on est un fils qui fait la joie de son père et de sa mère, ou une fille qui fait la joie de ses parents, ou est-ce qu'on fait honte aux parents, tellement notre vie est dépravée? Eh bien, qu'on puisse ce soir, peut-être, en rentrant, réfléchir et dire, tiens, je vais appeler mes parents, et puis leur demander pardon, si jamais ils ont eu sujet de se plaindre de moi. Ça peut être quelque chose à faire, non? Faisons-le tant que c'est possible, parce qu'un jour, les parents partent. Combien de personnes, on voit, qui disent « j'aurais aimé pouvoir dire ça à mon père, à ma mère. J'ai rencontré le Seigneur si tard que j'ai réalisé l'importance d'honorer son père et sa mère et d'être eh bien, en règle aussi avec eux et de pouvoir demander pardon peut-être sur certaines choses. » La joie, on la ressent, quelquefois on la vit, mais on a du mal à l'exprimer. Qu'est-ce que c'est que la joie? Je vous prends la définition d'une encyclopédie, toute simple. La joie, c'est une émotion ou un sentiment de satisfaction spirituelle. Déjà, cette encyclopédie comprend que la joie, ça a une portée spirituelle, plus ou moins durable, qui emplit la totalité de la conscience. Quand on est joyeux, on le sait. Quand on n'a pas de joie, on le sait aussi. On le sait, on en est conscient. Elle se rapproche de ce qui forme le bonheur. Elle se distingue des satisfactions liées au corps, qu'on appelle le plaisir. La joie, c'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est par rapport au corps. La joie, c'est quelque chose d'intérieur, de profond, qui va jusqu'à l'esprit et qui atteint toute notre conscience. Le plaisir n'affecte qu'une partie de la conscience. Ce qui m'étonne dans ces textes, ça c'est un petit peu le préambule, mais ce qui m'étonne dans ces textes, c'est qu'il est parlé en premier, le premier texte qu'on a lu, il nous est parlé d'un homme riche, très riche, et qui est pourtant pas joyeux, qui n'a pas la paix dans son cœur. À qui, peut-être matériellement, il y a de l'abondance, pour qui il y a de l'abondance, il lui manque peut-être rien. Je ne m'étonnerais pas si on me disait, si j'avais une image de lui, de sa maison, de voir des personnes de sa maison, des serviteurs, des servantes, une belle maison, une belle villa sur la Côte d'Azur ou d'Usur, comme on dit. Je ne sais pas, il avait peut-être tout ce qu'il lui fallait, sûrement, il était très riche, le texte nous dit, mais au fond de son cœur, il lui manque quelque chose. Et même, après avoir posé la question à Jésus, mais que faut-il pour être sauvé? Car c'était là le sujet de son inquiétude. Que faut-il pour être sauvé? Il va repartir encore une fois, après avoir la réponse de Jésus-Christ, tout triste. Cet homme n'a pas de joie. Pourtant, il ne manque de rien, sauf d'une chose, la vie éternelle. Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui répondre quoi? Mais tu connais la loi? Tu connais la loi? Oui, depuis ma jeunesse, je lui obéis. Irréprochable. Il a mis en règle toute sa vie, je suppose, qu'auprès des gens, s'il faisait quelque chose qui n'était pas dans la loi, eh bien, il le rectifiait, etc. Si la loi disait que pour tel péché, il y avait telle chose à faire, il s'appliquait exactement à faire ce qu'il fallait. Et pourtant, dans son cœur, il n'y avait pas de paix. Il manquait quelque chose. Tous ses efforts ne suffisaient pas à lui donner l'assurance qu'un jour il ira au paradis et pas en enfer. Et cet homme était tourmenté dans son cœur, et quand il est reparti tout triste, parce qu'il a compris que l'argent n'était pas la clé du bonheur ni de la joie, et que d'ailleurs l'argent pouvait l'empêcher, puisque Jésus va conclure en disant, non pas c'est impossible pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux, ce qui voudrait dire sinon que Dieu est contre les richesses, c'est pas vrai du tout, on peut être riche et joyeux, mais il faut d'abord et avant tout comprendre une chose, c'est qu'il faut suivre Jésus. Suis-moi. Enlève tout ce qui a de l'importance, plus d'importance à tes yeux que moi, et maintenant, suis-moi. Jésus va lui dire, suis-moi. L'autre texte, le deuxième texte qu'on a lu, c'était un texte qui nous parle du récit de l'arrestation de Paul et Silas. Paul et Silas, ils font une mission, une campagne d'évangélisation, et pendant ce moment-là, il y a une femme tourmentée par des démons qui vient les embêter. Ils la délivrent, et les maîtres de cette femme, qui faisait une sorte de voyance, quelque chose comme ça, eh bien, ils disent, mais on ne va plus avoir d'argent grâce à elle. Il faut arrêter ces gens-là. Ils les enferment, ils se retrouvent en prison, et voilà qu'en prison, ils se plaignent, ils pleurent, ils crient à Dieu, pourquoi pourtant on est venu travailler pour toi? Non, c'est pas ça. Ils disent des cantiques, des prières. Ils chantent au point que toute la prison entend, les prisonniers entendent. Ils chantent des cantiques, des louanges à Dieu. Ils disent merci Seigneur pour tes hauts faits. Ce que tu fais, c'est merveilleux, alors qu'ils sont en pleine prison. Et les prisons d'hier, de ce moment, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Parce que moi, je suis allé en prison aujourd'hui, pas pour moi, mais pour visiter des prisonniers et pour leur prêcher la parole de Dieu. Et à ces prisonniers, ils avaient salle de muscu, soins illimités, télévision, musique, etc. Et quand ils n'étaient pas contents, il fallait se soumettre à ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient insulter comme ils voulaient, aucune conséquence. Chauffage, tout ce qu'on veut. Il y a même des périodes, on les retrouvait toujours à la même date, chaque année, parce qu'ils s'arrangeaient pour faire un délit qui permettait que pendant l'hiver, ils aillent au chaud, puisqu'ils n'avaient pas de logement. Ils savaient qu'on leur payait les soins, ils se refaisaient faire les dents, les lunettes, tout ce qu'on voulait. Mais ce n'est pas comme ça à l'époque. Les géoles, c'est comme ça qu'on disait. Les géoles de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et ces hommes sont dans des situations incroyables, les ceps aux pieds, des chaînes, des anneaux comme ça aux pieds pour les empêcher de partir. Il y avait probablement des gens, des gardiens qui étaient là, ils n'étaient pas plus, c'était pas détendre. Ils étaient là dans une situation horrible pour Dieu, pour le nom de Dieu, ils prêchaient l'évangile. Et alors qu'ils ne font rien de mal, ils délivrent une personne de ses démons, ils se retrouvent en prison. Ils auraient eu l'occasion de se plaindre, de s'inquiéter, de dire mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Au contraire, ils chantent, ils prient, louent Dieu, au point que même le geôlier entend leur chant. Puisqu'après, il va leur dire, mais comment être sauvé ? Il n'a pas dit par hasard. Il voit qu'ils sont là et il leur pose la bonne question. C'est que dans les chants et les prières, il avait compris qu'eux, ils étaient sûrs d'être sauvés malgré n'importe quelle situation sur cette terre. Qu'importe la circonstance, ils avaient une place dans le ciel. Peut-être que dans leur louange, ils disaient merci de nous avoir sauvés et de nous avoir ouvert le ciel. Merci Jésus parce que maintenant tu es en train de nous préparer une place dans le ciel. Merci Seigneur parce que je suis sûr d'aller au paradis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était les paroles des chants de l'époque ? Peut-être c'était un chant sur la croix ? Peut-être c'était tout ça, j'en sais rien. En tout cas, ils chantaient, ils louaient le Seigneur et ils priaient. Peut-être qu'ils priaient pour les geôliers. Ça ne m'étonnerait pas. Peut-être qu'ils priaient pour les autres prisonniers. Tout le monde entendait en tout cas. Ils ne faisaient pas ça timidement. Ils priaient. Ils ne peuvent pas prêcher dans la rue, ils vont prêcher dans la prison. Des témoins jusqu'au bout, dans toutes les fibres de leur être. Des témoins. Paul, quand on lit tout ce qu'il a écrit, on sait que c'est quelqu'un qui suivait Jésus. C'est pas vrai ? Paul, il avait une joie qui ne dépendait pas des circonstances pour une chose. Jésus avait rencontré cet homme et il avait dit « Que veux-tu que je fasse ?» On le lit ensemble, Actes chapitre 9, verset 1er. Cet homme, Paul, voulait faire tout ce que Dieu demandait. Lui aussi, il prenait soin de la loi. Irréprochable quant à la loi, il le dira plus tard. Et pourtant, il regarde ça comme de la boue depuis le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Il tuait les chrétiens, il faisait tuer les chrétiens, enfermait, tuait. Et un jour, Jésus le rencontre. Verset 1er du chapitre 9 du livre des Actes. « Cependant, Saul, qui va plus tard s'appeler Paul, respira encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. On s'arrête là, vous pouvez continuer cette lecture. Un jour, Paul a rencontré le Seigneur Jésus qui s'est révélé à lui et ce jour-là, sa vie a été transformée, a changé. Et il va pouvoir dire plus loin, c'est lui qui le dira, « Soyez toujours joyeux » aux Thessaloniciens. « Soyez toujours joyeux. » Ailleurs aux Philippiens, réjouissez-vous toujours. Mais c'est impossible, Paul. Mais quand il écrit ça, il est en prison. Comme une fois qu'on a lu là, cette fois-ci au chapitre 16, il est en prison. Dans les pires circonstances, il a une joie qui ne le quitte pas, celle de connaître Jésus et de marcher selon son enseignement. Suivre Jésus-Christ. Le troisième texte qu'on a lu, c'était Pierre, il y avait les apôtres qui furent battus de verges. Eux aussi, ils prêchaient le nom de Jésus-Christ, ça n'a pas plu à certaines personnes, ils sont emmenés, mis en prison, battus de verges, et ils se mettent à se réjouir. Il est expliqué, ils quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quelqu'un dira, ils sont fous. C'est vrai ? Ils se font battre de verges. Et, vous savez, les verges, ça ne veut pas dire juste un petit martinet comme on a aujourd'hui. Les verges de l'époque, ça n'a rien à voir. Ils ont été battus, je suis sûr que leur dos a été lacéré, puisque c'était dos nu qu'on leur faisait ça. Toutes sortes de choses comme ça, de persécutions. Et eux aussi, ils sortent. Ils sont heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Christ. Une joie qui ne les quitte pas. Ce soir, je ne vais pas vous dire, il faut que vous fassiez battre, mis en prison pour être heureux. C'est ça la solution. Non, je l'ai dit et c'est tellement simple. La solution pour avoir une joie qui demeure, c'est de suivre Jésus-Christ. Pourquoi les apôtres étaient si heureux ? Parce qu'ils avaient d'abord vu Jésus, souffrir pour eux en premier. Ça avait été les témoins de ce que Jésus avait supporté pour leurs péchés à eux. On l'a chanté. Les chants qui nous parlent de la croix nous parlent du Rédempteur adorable. Cet homme Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu pour expier tous nos péchés, lui-même a marché sur cette terre d'une manière digne, d'une manière pure, pour satisfaire le cœur de Dieu et payer le prix que nos péchés avaient contracté comme dette dans le ciel vis-à-vis de Dieu. Vous savez qu'encore aujourd'hui, pour payer d'une faute qu'on a fait, d'un délit, il y a une amende. Parce que le seul moyen d'atteindre quelqu'un, c'est soit la prison, soit le portefeuille. C'est pas vrai ? Les PV. Comment faire en sorte que les gens roulent à la bonne vitesse ? Les PV. Il y a un prix pour un délit commis. Et nous, on le réalise pas, mais quand on méprise Dieu, quand on méprise sa parole, quand on fait toutes sortes de choses, la Bible nous parle de mensonges, mais je crois que c'est aussi d'abord une attitude de cœur, une indifférence envers celui qui nous a créés, celui qui a tout créé pour nous. Quand on fait ces choses, c'est comme si on contractait une dette dans le ciel. Et la colère de Dieu se lève sur toute injustice des hommes. Ce qui est juste, c'est pas qu'on vous paye votre allocation. Ce qui est juste, c'est pas que vous soyez dans un confort, etc. particulier. Ce qui est juste, c'est qu'on rende à Dieu gloire. Parce que j'ai été créé pour rendre gloire à Dieu. J'ai été créé en tant qu'être humain pour la gloire de Dieu. Et ça, on veut pas l'entendre. Je veux être créé pour moi-même, pour passer une belle vie sur la terre, avec un maximum de confort, maximum de plaisir, etc. La Bible nous enseigne que le premier des péchés, c'est ne pas rendre gloire à Dieu, lui qui nous a créés. C'est ce que dira les Écritures, le bœuf connaît son propriétaire, le serviteur connaît son maître. Il y a même des serviteurs qui aiment leur maître. Et qui se sont voués corps et âme à leur maître, parce qu'ils savent de qui ils dépendent. Mais l'homme ne reconnaît pas son Dieu. Non pas qu'on soit simplement des esclaves, là, pour Dieu, mais Dieu, il veut bénir les hommes, et par le fait qu'il va les bénir, il veut en tirer une gloire. Et l'homme s'est détourné de ce beau projet de Dieu. Il a commis le péché, il a désobéi à Dieu, il continue de le faire, il se plaît dans ses souillures, dans toutes ces choses, il s'entretue les uns les autres. Et Dieu, là, il regarde et dit, mais qui demandera pardon pour ses péchés ? Qui demandera pardon pour ses iniquités ? Qui reconnaîtra que Jésus est celui qui a payé le prix pour effacer toutes ses dettes et tout son péché ? Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Pierre était l'un d'entre eux. Jean était un autre. Ils ont vu leur Seigneur, leur Maître, donner sa vie, souffrir, eh bien, pour expier les péchés du monde entier. On est les premiers, moi le premier à se rebeller, à en tout cas être irrité, à être touché lorsqu'on entend qu'un enfant a été maltraité. Lorsqu'on entend qu'un époux a trahi sa femme, qu'une épouse a trahi son mari, On est les premiers à être touchés lorsqu'on entend qu'il y a eu un meurtre, etc., etc. Mais le plus intéressé par le bonheur de l'homme, c'est d'abord Dieu. Et il veut donner à l'homme une joie. Mais l'homme, refusant de connaître Dieu, il s'enfonce dans son péché, il s'enfonce dans sa noirceur, alors que Dieu veut lui offrir le ciel, veut lui donner de la joie, veut lui donner du bonheur. Et pour cela, il fallait payer la dette, il fallait payer le prix pour effacer tous les péchés. Et c'est Jésus qui l'a fait en versant son sang sur le bois de la croix. Et ça a donné de la force à ses apôtres, à ces hommes qui ont vu Jésus mourir. Ça leur a donné la force de supporter toutes les injustices que les hommes leur feraient, subir pour prêcher le nom de Jésus-Christ et partager cette joie qu'ils ont reçue en lui. La joie, elle dépend de quoi ? Elle dépend du salut. Savoir que je suis sauvé, savoir que je suis pardonné, savoir que quelqu'un a payé pour toutes mes fautes et que je n'ai plus rien à me reprocher devant Dieu. Savoir non pas qu'on est irréprochable parce qu'on a obéi à une loi, mais qu'on est irréprochable parce que quelqu'un a payé pour nous. Parce que même une bonne œuvre n'en couvre pas une mauvaise. Je vais vous poser une question. Demain quelqu'un s'en prenait à votre maman ou à la personne qui est la plus chère encore vivante et qui lui faisait du mal et que juste après il aidait une mamie à traverser la route. Vous direz, c'est bien pour la mamie, mais tu as touché à la personne que j'aime. Tu as fait du mal à cette autre personne. Et ce que tu as fait, c'est pas effacé par la bonne œuvre que tu as fait juste après. Et il faut réparer la première. Et vous seriez satisfait s'il y avait une justice humaine qui condamnait les mauvais actes. Eh bien, c'est la même chose. Avec Dieu, on n'efface pas les mauvaises œuvres par des bonnes. On efface les mauvaises œuvres par la foi en Jésus-Christ qui a versé son sang sur le bois de la croix. Aussi simple que ça. Trois situations. La première, un homme si proche du but. C'est fou. Il était devant Jésus. Il a eu l'occasion de lui parler. Vous savez, des moments, il y avait une foule tellement grande qu'on ne pouvait pas peut-être s'adresser aussi facilement à lui que ça. Il y a une femme, elle a juste pu toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Lui, il était là et Jésus prend du temps pour lui. Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est le Sauveur, qui est le Seigneur. Et il est là, il parle avec lui. Comment faire pour avoir la vie éternelle ? Comment faire pour être sauvé ? Jésus lui dit, c'est simple, tu connais la loi. Oui, j'ai obéi. Eh bien, il te manque encore une chose. Voilà. Aime-moi plus que tout le reste et suis-moi. Pourquoi ? Parce que je vais payer pour toi. C'est que Jésus, quand il lui dit ça, il n'est pas encore mort. Pourquoi Jésus lui dit de le suivre ? Pas parce qu'il est un bon théologien, un philosophe, comme ma famille disait que Jésus était, mais parce que Jésus allait donner sa vie pour lui. Et je suis sûr qu'il aurait voulu que cet homme le voie mourir sur le bois de la croix. Cet homme le suive jusqu'à la croix. Cet homme aurait pu être le témoin de l'œuvre la plus magnifique que le monde n'ait jamais connue. Un homme parfait, venu exprès sur la terre, donner sa vie pour effacer tous les péchés du monde entier, à condition que ce monde, ou quiconque dans ce monde, croit en lui et se mette à le suivre. Aussi simple. Jésus dit, suis-moi. Paul, tout à l'heure, je lisais dans Galates chapitre 5, je vous le lis. Galates chapitre 5, verset 16, Paul va dire « Marchez selon l'Esprit ». Paul avait compris que suivre Jésus, c'est pas juste le connaître en son temps et le suivre physiquement, puisque il nous a jamais dit qu'il avait vu Jésus avant. Je crois que Paul n'a jamais rencontré Jésus avant. Mais par contre, il l'a rencontré après sa mort, par une révélation personnelle, dans une lumière, je ne sais pas comment ça s'est passé, comme ça s'écrit simplement. Il a compris que ce n'était pas juste avoir entendu parler, juste avoir signé dans le jour de son baptême un petit registre ou quelque chose qui fait qu'on a un jour dit Jésus sur le bout des lèvres, mais une marche continuelle, une vie qui pratique la justice et bien les conseils de Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui met en pratique dans sa vie ce que le Seigneur demande de faire. Et Paul a goûté une joie que le monde ne peut pas fournir et que les plaisirs du monde ne peuvent pas communiquer. Je sais que ce soir, il y a des gens qui cherchent la vraie joie et le vrai bonheur dans les choses du monde, dans les plaisirs du monde, dans les expériences du monde, dans des choses qu'on regrette après, dans des choses qui nous font pleurer après, Parce qu'on dit, si je pouvais revenir en arrière, je ferais plus pareil. Je pensais que j'allais être heureux, je pensais que j'allais être heureuse, si j'avais su. Et ce soir, Dieu nous donne cette joie de réaliser, ce privilège de réaliser que le vrai bonheur, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas de goûter à toutes sortes d'expériences, ce n'est pas d'être propre juste, je mérite le ciel. C'est de croire que quelqu'un l'a mérité pour nous et le donne gratuitement, le Seigneur Jésus. Paul, Silas, les apôtres, sont joyeux même dans les pires circonstances pour une raison. Ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, maître de leur vie. Ils lui obéissent et ils sont devenus des témoins pour que d'autres trouvent cette joie à leur tour que d'être un enfant de Dieu, car le seul moyen de l'être, de pouvoir prier notre Père, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme celui qui a payé pour nos péchés, de les lui avoir confessés et de vouloir marcher comme il nous demande de marcher dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. Encore ce soir, de faire cette œuvre dans notre cœur, de nous communiquer ta joie, en nous convainquant non seulement de péché, mais aussi de cette justice. Ce jour, c'est vrai, où tu as marché dans ce monde pour accomplir ce qui nous était impossible de faire, une vie parfaite qui s'offre pour le salut du monde entier. Oh, peut-être on aurait de l'amour pour un prochain, pour une personne chère, et on voudrait bien supporter quelques souffrances pour lui en épargner d'autres. Mais toi, tu l'as fait pour tous les hommes, sans différence, sans distinction. Tu t'es livré afin que quiconque croit en toi n'aille pas en enfer, ne soit pas privé de la vraie joie éternelle, mais qu'il puisse au contraire aller au paradis, au ciel avec toi et être sauvé. Merci Seigneur encore de nous aider ce soir à réaliser quel est notre privilège de goûter à ces choses, d'avoir peut-être une Bible, d'avoir tes paroles qui nous sont écrites, qu'on n'oubliera pas parce qu'on peut à chaque fois y retourner pour puiser des conseils, pour puiser des trésors dedans. Merci de donner à chacun qui sont ici ce soir aussi la conscience de réaliser vraiment que la vraie joie ne se trouve pas dans les plaisirs du monde, dans les expériences qu'il propose, mais la vraie joie, c'est de te suivre et de te mettre de tout notre cœur parce que toi, tu nous as aimés le premier en donnant ta vie pour moi, pour chacun d'entre nous. Grave ces choses dans notre cœur, je t'en supplie. Et que ta gloire puisse éclater parce que c'est quand tu sauves des âmes qu'elles sont enfin capables de te rendre gloire. Si je te dis merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, ce n'est pas parce que je le méritais, c'est parce que tu as fait ce que je ne pouvais pas obtenir et tu me l'as donné. Que ton nom soit béni et que ce soir encore, nous puissions tous grandir dans la foi, qu'elle soit une existence ou petite, qu'on puisse aller encore plus loin, Seigneur, avec toi, et découvrir combien tu es bon, et ne pas goûter à quelques petits domaines dans lesquels tu veux agir, mais de vérifier que tu es prêt à faire en sorte que la joie que tu donnes se répande dans toute notre conscience et tout notre être, parce que tu es celui qui efface tous les péchés, pour aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Amen. Amen.